RMC. Laëlle, l'amour et vous, Brigitte Laëlle.
Le choix du prénom d'un enfant est toujours très significatif. Parfois, les deux parents ont d'ailleurs bien du mal à se mettre d'accord. Alors, il y a le prénom qui indique notre culture, celui qui rappelle l'un de nos ancêtres. Et puis, il y a des prénoms qui, symboliquement, parlent beaucoup de notre inconscient. Alors, moi, je pense tout particulièrement à l'une de mes amies qui avait donné comme prénom à son fils celui de son premier amour. Alors, ce n'était pas le père, et franchement, c'était pas très cool pour le mari, et sans nul doute, pas très cool non plus pour le fils qui démarrait son existence avec un poids assez inutile. Avec Stéphane Clergé qui est pédopsychiatre, eh bien on va mieux comprendre ce que signifie notre prénom et pourquoi il a été choisi pour votre enfant. Donc n'hésitez pas à venir témoigner, à poser vos questions en nous appelant au 3216. Et puis après 15h20, notre guide sera Jean Habitbol. Il nous expliquera tout ce que transmet notre voix, la voix instrument de pouvoir mais aussi porteur d'émotions. Et si vous avez envie de lui poser une question, vous pouvez dès à présent composer le 3216. En programme également, nous aurons notre fil d'Ariane qui nous évoquera cette professeure enceinte de son jeune élève. Amélie a testé pour nous une crème de massage. Et puis, en love conseil, je vais vous parler de la chambre Feng Shui. Voilà. Bonjour Stéphane Clergé.
Bonjour Brigitte, dont j'adore le prénom.
Ben moi j'adore le vôtre, j'aime pas trop le mien. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop leur prénom, c'est vrai ça.
Oui, c'est vrai, c'est étonnant, mais comme il y a des gens qui aiment pas leur voix et comme il y a des gens qui aiment pas leur physique, bon.
En tout cas, le choix d'un prénom, c'est très très symboliquement fort, ça, oui. Vous êtes d'accord,
Stéphane? Oui, 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 très fort, ça dit plein de choses et ça explique aussi certains traits de caractère, certaines traits de personnalité et parfois même certains traits choix professionnels, le prénom comme le nom de famille d'ailleurs.
Alors, j'ai raconté comme ça en introduction cette petite histoire de ma copine, hein.
Oui.
C'était pas très intelligent.
Non, et à la fois, vous savez, des fois, le fait d'avoir simplement envie de le donner, même si on le donne pas, ça traduit quelque chose. Aujourd'hui, quand le père et la mère discutent et que finalement on choisit un prénom avec les histoires de liste, ça impacte moins parce que c'est pas notre premier choix. Parce que moi, je demande toujours aux parents que je reçois pourquoi ils ont choisi ce prénom. Et c'est intéressant. Parfois, les parents se partagent quand ils ont plusieurs enfants. Un parent donne un prénom et l'autre donne. Et là, c'est plus intéressant parce que c'est un vrai choix. Et c'est intéressant de chercher finalement parce que souvent, spontanément, on dit, oh, parce que c'était joli. Et en fait, quand on cherche bien, c'était le prénom de mon grand-père que j'aimais bien. Ah oui, il avait quel caractère. Parfois, c'est le deuxième ou le troisième prénom, parce que le premier correspond pas vraiment à ce qu'on voulait, et du coup,
on se rattrape sur
le suivant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de liberté pour les prénoms, et donc c'est d'autant plus intéressant.
Et puis, il y a des prénoms, qu'on devrait éviter de donner, parce que c'est des prénoms qui sont trop chargés. Je pense, par exemple, à Adolphe. Bon,
oui.
On n'a pas très envie d'appeler son enfant Adolphe. Enfin, je prends cet exemple comme ça, parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais il y en a quand même quelques-uns.
C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, l'état civil a moins de pouvoir, j'allais dire, pour empêcher le choix du prénom. Mais quand même, heureusement, parfois, il interdit quand il sent que c'est franchement agressif. Il y a malheureusement des parents qui donnent des prénoms dégoûtants pour leur enfant. Et on sent que déjà, il y a une...
Ridicule. Oui.
On sent déjà une espèce d'animosité plus ou moins consciente.
On en parle avec vous au 32-16 et on commence avec Dominique. Alors Dominique, c'est un prénom à la fois féminin et masculin. Ça aussi, c'est chargé...
Ça peut l'être ou non, parce que vous savez, quelqu'un qui appelle son enfant Dominique parce que c'était le prénom de son grand-père, et bien dans la tête de cette personne...
C'est un prénom masculin.
C'est masculin, donc c'est vraiment... Encore une fois, c'est toujours l'arrière-pensée, le désir inconscient qui accompagne le prénom. Mais il n'y a pas un prénom type, chaque prénom a son histoire.
Alors justement, Dominique, on ne sait pas si vous êtes un homme ou une femme, mais à mon avis, grâce à votre voix, on va tout de suite le savoir. Bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour
un homme.
Stéphane.
Bonjour.
Ouais, je suis un homme. Je suis un homme, mais bon, j'ai mon côté féminin qui est assez développé aussi. C'est ce que me dit souvent ma femme, d'ailleurs.
C'est ce qu'elle préfère en vous ?
Je sais pas, non, mais ça nous permet de bien discuter, parce que...
pas seulement, parce que dans Dominique, il y a...
Mais bon,
on vous entend très très mal, Dominique. Faites attention, sinon on va être obligé.
Il y a d'hommes.
Oui.
C'est votre. Non, je suis désolée, c'est vraiment pas possible. On va essayer de retrouver une meilleure liaison, Dominique, et on vous reprend après. Bon, en attendant, on va donner la parole à Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Donc je suis un garçon, hein, je pense que vous l'avez remarqué.
Bah Thomas, on n'a pas de doute.
Ah, hein. Oh, ça peut arriver.
C'est pas du tout un prénom féminin, Thomas.
Non, c'était pour la boutade.
Mais c'est joli, Thomas, moi j'aime bien.
Ouais.
Ah, ça me fait plaisir.
Vous l'aimez, votre prénom?
Pas tant que ça.
C'est marrant, hein, le nombre de personnes
trop
qui
l'aiment. Ouais, ouais. C'est étonnant. Ouais.
Trop commun, c'est pas si commun que ça aujourd'hui.
Non. Pas chez les
des Thomas dans ma génération.
Ah oui, vous avez 25 ans.
Les maîtresses
oui.
faisaient l'appel, il y en avait 5 ou 6, comme les Kevin.
Eh oui, et c'est vrai qu'on aime à la fois avoir un prénom qui soit pas trop original, mais on voudrait quand même pas qu'il y ait trop de gens qui s'appellent comme nous.
Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Et à la fois, il y a des gens qui me disent, moi j'aime bien quand je retrouve des gens qui ont le même prénom que moi, j'ai l'impression que c'est des cousins, des amis. Il y a un effet bande.
Bon, en tout cas, vous voulez nous parler de fantasmes, Thomas.
Tout à fait. De fantasmes et de problématiques. Par rapport au sujet d'hier, il y avait un intervenant, plutôt un auditeur qui avait parlé du fantasme de sa compagne.
Je crois que c'était David, en effet, oui.
Et du coup, ma femme avait le même fantasme, sauf que la particularité, c'était de le faire avec un ami en commun qu'on avait. Du coup, moi, j'ai accepté, je pensais pouvoir être à même... de réaliser ça, ça m'excitait également, hein. J'étais dans la mouvance positive, on va dire. Et du coup, pendant une soirée, on va dire, la phase des préliminaires a commencé et j'ai explosé. J'ai explosé, c'est-à-dire que j'ai demandé que ça s'arrête, j'ai retourné l'appartement, je suis parti un petit peu en furie. Et depuis ce temps-là, je ne vois plus cet ami. J'étais assez tendu avec ma compagne. J'ai une forte haine avec. C'est très très étrange.
Mais vous avez eu mal et ça s'est traduit par beaucoup d'agressivité. Et ce qui est dommage, c'est que votre femme ne le comprenne pas, ça.
Ah oui, tout à fait.
Parce qu'en fond, elle est dans son ressenti à elle, donc sa frustration, puisqu'elle n'a pas pu accomplir son fantasme. Bon, très bien, je comprends son fonctionnement, mais il faut qu'elle comprenne que pour vous, ça a été insupportable. Et heureusement d'ailleurs que vous avez pété un câble et que vous avez tout arrêté. Parce que si ça avait été plus loin, vous seriez encore plus marqué.
Oui, tout à fait, je pense aussi.
On ne sait jamais à l'avance ce que ça va donner. Ça peut imaginairement nous exciter et puis finalement on ressent par exemple de la jalousie. Et je pense qu'effectivement la règle avant de réaliser, comme vous dites, des fantasmes avec sa compagne, c'est qu'il y a la possibilité de dire stop quand ça ne va pas. C'est comme dans les relations sadomaso. Il faut qu'il y ait la possibilité de dire stop, on arrête. Et ça, peut-être que vous en aviez pas assez discuté avant. Vous disant, écoute, si ça nous plaît pas, on se donne le droit d'arrêter.
Ouais, tout à fait. En fait, elle m'en avait parlé. Moi, j'en ai parlé à l'ami. C'est plus moi qui fais la démarche, finalement, de son fantasme à elle. Et je sais pas si, finalement, au fond de moi, je n'avais tant envie que ça. Je sais pas. J'étais plus, lui faire plaisir. Et en fin de compte...
Non, mais Thomas, c'était un ami à vous ou au couple?
Un ami à moi,
oui. Oui, c'est ça. Donc, vous aviez une véritable amitié avec cet homme. Et donc, pour vous, bon, après tout, c'était un jeu. Et vous n'imaginiez pas que ça puisse vous mettre dans cet état-là. Mais après, la réalité, elle est toujours différente de ce qu'on fantasme. C'est ce dont on parlait aussi hier. Donc, vous avez été... Vous avez mal réagi. Maintenant, ce qu'il faudrait avec votre femme, c'est pouvoir rediscuter de ça, de manière à planir la tension qu'il y a entre vous. Peut-être que ce qui aujourd'hui la met à distance, c'est parce qu'elle vous a vu violent et que ça lui a fait peur.
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un de violent. Après, je suis quelqu'un de très grand. Je suis 1m95 et 125 kg. Je suis ancien rugbyman, donc je suis assez imposant.
Ah oui, donc quand vous fâchez, ça fait peur.
Donc quand je me fâche, ça peut faire peur, effectivement.
Mais Thomas, il faut pas oublier qu'on a une part animale en nous qui est le cerveau reptilien. Et regarder deux mâles qui veulent aller sur la même femelle, ils peuvent se mettre à se battre. Et quelque part, c'est cette partie de vous-même qui s'est éveillée et vous n'avez pas pu la dominer. En même temps, je suppose que vous n'avez pas cassé la figure de votre ami, ni.
Non, 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 non. justement, j'ai plus un sentiment de culpabilité dans un sens d'avoir créé cette situation et aujourd'hui d'en vouloir à cet ami, alors que voilà, j'aimerais que la relation soit comme avant, mais c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas jouable. Et aujourd'hui, avec ma compagne, c'est pas tant qu'il y a de la distance, c'est qu'on fait comme si de rien n'était. Mais au niveau relation sexuelle, il y a c'est pas le néant, mais quasiment quoi.
Ben, je pense qu'il faut que vous avanciez sur vos ressentis, sur ce qui s'est passé en vous, que vous, pour l'instant, vous comprenez pas. Parce que c'est compliqué, à la fois, vous êtes responsable de cette situation, puisque c'est vous qui en avez parlé à votre ami, c'est vous qui l'avez amené, et en même temps, vous n'avez pas pu le supporter. Donc c'est compliqué pour vous, parce qu'à la fois, vous êtes en porte-à-faux, si je puis dire.
Oui, tout à fait.
Donc il faut que vous compreniez vraiment le processus qui s'est passé en vous. Cette amitié certainement très très forte, certainement avec une homosexualité latente qui se fréquente dans les amitiés entre hommes, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est lui c'est moi, moi c'est lui, hein, quelque chose comme ça très fort. Et donc pourquoi pas partager la même femme, sauf que devant la réalité, votre rivalité a pris le dessus et là vous avez voulu rester le mâle dominant et voilà, c'est un comportement qui est tout à fait compréhensible. Hein.
Et vous pensez qu'en crevant l'abcès du coup avec ma compagne, bon les choses peuvent se voilà, forcément il y aura un avant un après. Après avec l'ami, je pense que c'est enfin aujourd'hui au fond de moi, j'ai rien contre lui, mais quand je le vois, parce que je l'ai revu une fois, quand je le vois ou que je discute avec lui, j'ai
rien à lui
dire et ouais, voilà.
Oui, ben oui, parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore complètement élaboré vos émotions et vos ressentis. Et c'est pour ça que vous êtes perdu, parce que vous comprenez pas ce qui se passe. Mais si vous arrivez à vraiment comprendre ce qui s'est passé, après tout, vous pourrez même peut-être en rigoler avec votre ami. Parce qu'au fond, il l'a pas pénétré, votre femme. Donc, il n'y a pas eu l'acte. Donc, on peut, à un moment donné, arriver à en rigoler. Mais pour ça, il faut vraiment comprendre tous les enjeux qui se sont produits et toutes ces contradictions qu'il y a eu en vous.
Oui, il n'y a pas eu pénétration, c'est vous qui lui avez proposé, donc il n'y a effectivement objectivement pas de raison de lui en vouloir, mais vous avez pris conscience qu'en amitié, on ne partage pas tout. Et il peut y avoir effectivement une déception aussi à ce niveau-là. Donc, soit vous vous rattrapez avec votre ami et sa femme, et dans ce cas-là, ça équilibre un peu, mais je ne sais pas si vous avez vraiment envie, soit effectivement, vous arrivez à en discuter avec votre pote, et l'idée, c'est de lui expliquer, de lui dire ce que vous avez ressenti, à mon avis, ce qu'il pourrait comprendre. Hein. Il peut largement se mettre à votre place, et comprendre ce que vous avez ressenti. Mais quant à votre femme, évidemment qu'il faut percer l'abcès, mais c'est pas forcément un abcès. Je crois qu'il faut juste lui dire, écoute, voilà, j'ai réalisé que j'avais des limites, elles sont là. Alors après, la question qui se pose, c'est est-ce que si ça avait pas été un ami, mais un type inconnu, ça aurait été pareil?
Voilà, c'est la grande question aujourd'hui. Moi, actuellement, en fait, le ce qui s'est passé, où ça m'a fait bloquer, c'est que j'avais l'image de cette personne du coup qui l'a caressé, qui l'embrassait, j'ai ce flash quoi encore aujourd'hui qui me rend fou. Et je me pose la question, parce que son fantasme de deux personnes, ça reste quand même son fantasme. Et d'aller dans des clubs, etc., je me demande, est-ce que j'ai la capacité d'eux, ou est-ce que je vais avoir la même réaction?
Mais pour le savoir, faut tester.
Renvoyer du club.
Pour le savoir, faut tester. Mais effectivement, peut-être pas le tester dans un club pour pas vous faire envoyer. Et encore, vous serez pas forcément violent dans le club. Mais faut tester pour le savoir.
Mais de toute façon, moi, je ne cesse de le répéter. Faire un trio avec un de ses meilleurs amis, non, c'est la pire des bonnes idées. Hein. Alors après, si on est vraiment très libertin, tout est possible. Mais
débuter par ça,
c'était trop violent, visiblement.
C'est pour ça que votre témoignage est intéressant pour nos éditeurs qui pourraient être tentés, suivant le conseil de Brigitte, ne pas démarrer avec son meilleur ami.
Non, ne démarrez pas. Hein. Bon, mais écoutez, merci beaucoup en tout cas.
Et puis n'hésitez pas à aller en parler si ça continue à vous bouleverser pour arriver à faire poser les choses clairement.
Hein. Ouais, d'accord.
Merci Thomas.
Merci beaucoup en tout cas.
Au revoir. Dominique, on vous a retrouvé. Est-ce qu'on vous entend mieux? Bonjour Dominique. Rebonjour Dominique.
J'espère. Rebonjour à vous deux.
Oui, c'est beaucoup mieux.
Bon, oui, moi je suis intéressé par ce sujet aujourd'hui que vous évoquez sur les prénoms. car à mon sens, c'est la première émotion intrusive que l'on va transmettre à son enfant, puisque c'est quelque chose dont on va parler avec sa compagne ou avec son compagnon, et ça va refléter finalement l'émotion que l'on va transmettre par cet acte de nommer quelqu'un, et qui va ensuite le suivre sur toute sa vie. C'est comme quand on dit mon chéri, mon amour, mon petit sucre, etc. C'est une émotion que l'on transmet par la parole et une appellation. Et quand on appelle son enfant Dominique, Nathalie, François, Pierre, Paul ou Jacques, c'est aussi une manière de transmettre une première fois une émotion par rapport à quelque chose qui nous est cher. Moi, par exemple, c'est rigolo parce que je suis de cette génération des Dominique à l'époque où Sœur Sourire avait sorti cette fameuse chanson Dominique, Nique, Nique. Bon, voilà, c'est un peu de là que c'est venu. Et ma femme,
faites attention, on vous perd à nouveau, Dominique. Oui, Nathalie. Je suis vraiment désolée, Dominique, on vous perd à nouveau, c'est pas audible, mais en tout cas, ce que vous dites est très joli, et oui. Je pense que vous êtes d'accord, Stéphane.
Oui, à la fois, il a raison, le prénom avant le nom, puisque l'enfant connaît pas son nom de famille avant un certain âge, on lui donne pas. Et il y a le prénom, il y a le sens caché, donc toute la dimension affective, émotionnelle. Faut pas oublier, même si ça a moins d'impact, la sonorité du prénom. Il y a des prénoms rocailleux, la musicalité, parce que l'enfant est aussi sensible à ça. Il y a des prénoms très brefs, Tom, et puis il y a de longs prénoms. Et cette musicalité aussi influence, parce que l'enfant va se voir aussi dans son prénom. Quand il comprend que c'est le sien, eh bien il se voit dans son prénom. Et la sonorité influe certainement aussi le regard qu'il porte sur lui-même. Heureusement, il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'il voit dans le regard de ses parents.
On va continuer avec l'onde positive du jour et je vais vous parler de la présence, ce que de nombreux coachs ou thérapeutes appellent être en conscience. Alors moi, je suis pas trop fan de cette expression être en conscience, même si je sais que maintenant elle est très connue parce que très répétée. Je trouve que le terme de présence me paraît mieux et ce degré de présence, il est important parce que plus on est en présence, plus on a ce sentiment d'exister. Donc il faut travailler sur cette notion d'être en présence. Voilà.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce qu'être en conscience, c'est être en présence? Parce que moi, je vois des gens, des fois, qui méditent, ils pourraient dire qu'ils sont au fond de leur conscience, et finalement, on a l'impression qu'ils sont absents pour nous autres.
On se retrouve dans un instant, et puis bien sûr, vous pouvez vous aussi témoigner. Est-ce que vous aimez votre prénom? Est-ce que vous êtes en train de choisir un prénom pour votre enfant? On vous attend au 32-16.
RMC, 14h-16h, La Haine, l'amour et vous. Mère au foyer, femme active, ado, en couple ou célibataire, tous chez Brigitte sur RMC.
Alors, je pense que ça va certainement vous intéresser, Stéphane Clerget. On va parler de sexe et de loi avec Mathieu Touzel-Divina qui est avec nous à l'antenne. Bonjour Mathieu Touzel-Divina.
Bonjour.
Alors, vous organisez ce colloque au Mans vendredi et j'ai accepté d'être la marraine parce que justement, ça me paraît un sujet tout à fait intéressant. Je rappelle que vous êtes professeur et membre du collectif de l'unité du droit. Alors, le sexe et la loi, l'État, justement, doit-il légiférer sur les questions de l'intime? Ce sont, je suppose, ce genre de questions qui vont se poser lors de cette journée. Alors d'abord, pourquoi ce colloque, Mathieu?
Alors, la première observation qu'on a pu se faire quand on a voulu organiser le colloque, elle est toute simple. Elle est précisément de se dire, quand on parle de sexualité, est-ce que finalement ça ne regarde pas que celles et ceux qui sont en train d'opérer la sexualité? Et donc, conséquemment, qu'est-ce que vient faire l'État là-dedans? Qu'est-ce que vient faire la puissance publique? Qu'est-ce que viendrait faire un juge là-dedans? A priori, on pourrait penser qu'il a rien à voir avec tout ça. Or, il a beaucoup à voir avec tout ça. Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder pourquoi et comment le droit va s'intéresser à ça. C'est-à-dire parfois la puissance publique, parfois le juge. Et puis comment est-ce qu'il se débrouille pour résoudre certaines questions de temps en temps.
Alors, donc, de temps en temps, en effet, il faut des lois. C'est ce que vous voulez dire. Alors, par exemple, moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. C'est cette loi qui a été votée sur la punition des clients de prostituées. Mm-hmm. Et alors que les prostituées ont le droit d'exercer, mais on punit ceux qui éventuellement viennent. Ça me paraît complètement aberrant sur le plan de la loi, parce que c'est pas, enfin, c'est une loi qui est contradictoire, non?
Oui, je partage votre sentiment. Et on est plusieurs à le partager. Je crois que la loi, elle part d'un, comme souvent en matière de sexualité, parfois d'un bon sentiment. Allez, on va au moins donner un bon sentiment qui est celui de certaines personnes dans le courant abolitionniste, d'essayer de dire on va tout faire pour que tout fonctionne sans qu'il y ait besoin d'avoir recours à des travailleurs et des travailleuses du sexe. Et voilà, moi, à titre personnel, je suis pas favorable à la loi telle qu'elle vient de passer. Et en fait, on a véritablement l'impression qu'ici, on a un législateur qui a envie de simplement dire une chose pour faire qu'elle n'existe pas. Et on sait très bien que malheureusement, il suffit pas de dire juridiquement que telle chose n'existe pas pour que ça n'existe pas. On peut parler d'avortement avant que l'avortement ait été rendu possible. On peut parler de PMA, de GPA dans différentes hypothèses. On sait que ça existe. Et le rôle du droit, c'est pas de dire que c'est possible ou pas possible, c'est de temps en temps d'accompagner les choses quand justement elles existent et puis de voir comment on gère les choses.
Oui, donc les lois ne vont pas toujours dans ce sens. Donc ça va être le propos de votre colloque, donc j'imagine.
Oui, et puis l'avantage, c'est que on va avoir un débat, par exemple, sur la prostitution. Sur ce débat sur la prostitution, il y a une personne qui fait partie, qui est travailleuse du sexe, qui fait partie du STRAS. Et puis il y a des personnes, justement, qui sont abolitionnistes, d'autres qui ne le sont pas. Donc il risque d'y avoir plusieurs points de vue. Un débat, je l'espère, animé sur la question. Et c'est ça tout l'intérêt.
Et c'est vrai que ça m'apparaît au cœur des questions de liberté individuelle, en fait.
Exactement. Oui, c'est toute la grande question de savoir si le consentement doit toujours primer ou pas, ou si de temps en temps, il ne faut pas mettre quelque chose devant le consentement. À titre personnel, je suis plutôt favorable à toujours faire primer le consentement.
Mais vous n'avez pas l'impression que sur plein d'autres domaines, aujourd'hui, on va un peu vers une restriction des libertés individuelles au nom de la sécurité des personnes, dans un excès de sécurisation
Particulièrement en ce moment où on est en état d'urgence. Mmh. C'est vrai que le caractère est vraiment accentué. C'est oui, bien sûr, c'est un constat qu'on peut faire et déplorer.
Et moi, il y a une chose aussi qui me frappe beaucoup en ce moment sur la manière dont les choses évoluent, c'est que la femme de plus en plus est considérée comme étant victime et pas apte à faire les bons choix. Il me semble qu'il faut faire attention à ça aussi. Bien sûr qu'il faut punir la violence conjugale, par exemple, mais j'ai l'impression qu'on va un peu trop aussi dans un sens qui protège la femme comme si elle n'était pas apte à se protéger elle-même.
Une infantilisation, quoi.
Si, oui, absolument.
Oui, exactement. Il y a ce caractère-là, le mot que vous avez utilisé, c'est exactement celui-là, c'est celui de victime. Je crois que quand on regarde les débats autour de la loi sur la prostitution, quand on regarde les différents textes qui les accompagnent, on se rend compte que véritablement c'est ça l'objet, c'est de dire.
Mais même sur le harcèlement, on va presque trop loin aujourd'hui.
Bien sûr. Mmh. Et il y a réellement cette mise en avant de la personne considérée comme victime et qu'on veut protéger, que l'État veut protéger, j'ai envie de dire malgré la personne, c'est-à-dire hors de son propre consentement.
Donc c'est vendredi, c'est ouvert à tout le monde
Alors c'est vendredi, c'est au Mans, c'est ouvert a priori à tout le monde sur inscription normalement. Il doit y avoir encore possibilité en allant sur le site.
On retrouve ces infos sur rmc.fr.
Voilà, de pouvoir éventuellement s'inscrire encore. Et puis on espère que tous les participants, tous les contributeurs pourront arriver, puisque vendredi, on sera dans un petit mouvement social, donc un grand mouvement social, donc il est possible que nous soyons un peu perturbés, mais ça fait partie du jeu.
Voilà, écoutez, moi je serai là pour la clôture de toute façon, sauf s'il y a des pannes de sens. Merci Mathieu Touzel.
Merci
Divina,
beaucoup.
Et on retrouvera également Jacques Delga qui nous fera le plaisir aussi de venir participer à un débat. On continue avec Pierre qui est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour Brigitte, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, bonjour. Le prénom de votre fille?
Oui, alors, elle s'appelle Giovanna.
Ah, Giovanna.
Giovanna, oui, c'est consonance italienne.
Et c'est un choix, pourquoi ce choix, donc?
Alors, c'est un choix qu'on a fait, ma femme et moi. Donc, elle m'a donné trois prénoms qui me plaisaient, donc on s'est mis d'accord sur ça. Et après, elle m'a donné libre choix. Donc, j'ai choisi celui-là.
Ah, ça, c'est pas mal. Donc là, il y en a un des parents qui donne trois prénoms et l'autre parent choisi parmi ces trois prénoms. C'est pas mal comme idée, non?
C'est pas mal, sauf qu'il y a un parent un peu gagnant quand même, parce que le choix reste limité pour l'un des trois, alors que le premier a déjà fait son choix.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est ça. Mais puis en plus, on est tous les deux d'accord, du coup, parce que les trois prénoms, pour moi, ils me plaisaient. Donc du coup, on est tous les deux d'accord. On était tous les deux d'accord.
Et pourquoi un prénom italien? Vous avez des origines italiennes?
Oui, ma femme a des origines italiennes et moi j'adore l'Italie malgré que j'ai pas d'origine italienne, mais j'adore ce pays et j'adore les prénoms italiens. Et donc voilà, ce choix-là.
Oui, on se doute bien sûr que il y a souvent une quelque chose. On a envie de marquer sa culture, hein, j'imagine. Oui. Stéphane Ferger,
ça, on retrouve ça et on voit justement dans les populations, par exemple les populations originaires d'Afrique du Nord. Maintenant, les parents, je trouve que les jeunes parents dont les grands-parents étaient originaires d'Afrique du Nord s'autorisent, j'avais envie de dire, des prénoms originaires du Maghreb, par exemple. Ce qui était moins le cas pour ma génération, par exemple.
Oui, parce que ça rentre plus dans la mixité française, voilà. c'est plus facile à porter aujourd'hui que ça ne l'était il y a 30 ans.
Oui, puis on a moins peur parce qu'on est plus sûr de son identité française, peut-être, et donc on a moins peur de donner un prénom d'autres contrées.
Merci beaucoup Pierre, et on attrape maintenant notre fil d'Ariane et nous partons en Angleterre, cette professeure donc anglaise qui est enceinte de son élève.
Bah oui, on a déjà entendu parler des histoires de professeurs et élèves amoureux l'un de l'autre, évidemment c'est condamné par la loi, on le sait tous, mais le cas est plus rare là en Angleterre qui vient de se passer, c'est qu'elle est complètement tombée enceinte de cet élève qui en plus est mineur à 13 ans.
À 13 ans, oui, c'est...
Voilà, et en plus, elle assure à la famille que le jeune homme et elle étaient tous les deux très amoureux, très consentants également, et qu'elle comprend pas pourquoi finalement elle a été immédiatement virée de l'établissement et condamnée.
Elle a quel âge?
24 ans, elle s'appelle Alexandria Vera, et elle ne se cachait de cette relation à personne, hein, devant les élèves, dans la rue, au sein de l'établissement où ils avaient toutes sortes d'attouchements à la vue de tous, et évidemment ça a été signalé et elle a été immédiatement retirée de l'école. Et ça pose les deux problèmes: d'une part c'est considéré comme un viol, c'est des relations sexuelles avec un mineur, d'autre part
abus,
un abus sexuel. Je viens quand même d'appeler Emmanuel Pierra, qui du moins selon la législation française c'est un viol,
il y a
une relation sexuelle, qu'elle soit consentante ou non, peu importe, l'enfant est mineur et à 13 ans il n'a pas la majorité sexuelle. Et d'autre part, ce professeur a autorité sur
bien
cet
sûr,
enfant, donc c'est la double peine si vous voulez, et c'est même la peine maximale. En France ça serait condamné à plus de 20 ans d'emprisonnement, on parle même pas de l'amende parce que là ça peut atteindre des sommets. Et évidemment, eh bien là on en parle énormément en Angleterre, et c'est pas un cas isolé, on en retrouve pas mal aux États-Unis. Il y avait cette histoire de couple aussi, là ça se passait à l'université, un couple qui chacun de leur côté avait des relations, mais cette fois-ci cachées, avec leurs élèves, des élèves parfois communs, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient des relations.
Et ce qui est terriblement choquant là, c'est l'âge du gamin, 13 ans.
Et à la fois, ce qui est intéressant, ce qui explique la réaction de cette femme, qui trouve rien à dire, on lui dit, si sa fille de 13 ans avait eu des relations sexuelles avec son professeur masculin de 25 ans, elle réagirait en tant que mère.
Oui, bien sûr.
Ça passe mieux dans un sens que dans l'autre, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand c'est une jeune fille, une enfant qui est touchée, il n'y a pas de doute. Et là, sous prétexte que c'est un garçon, il y a des gens qui peuvent mettre en doute le caractère d'abus ou de viol.
Je comprends. Et il y a deux problèmes aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer de cet enfant qui va naître, puisqu'elle garde cet enfant, et ce jeune homme de 13 ans qui est follement épris de cette femme,
qui devient père sans avoir rien demandé,
et qui devient père sans, voilà, qu'est-ce qui va se passer?
Si elle va en prison, c'est les grands-parents du jeune homme qui vont élever les parents du jeune homme qui vont élever l'enfant, certainement. C'est certainement ce que le juge va décider. Bon, je pense pas que c'est une famille d'accueil. Hein.
On saura bientôt la suite de l'affaire. Là, on vient tout juste de l'apprendre.
Oui, mais c'est vrai que c'est toujours pareil. Il y a une loi qui délimite bien la majorité sexuelle, et 13 ans, on est largement en dessous. Donc,
Merci Ariane. On se retrouve dans un instant et vous pouvez bien sûr vous aussi témoigner des prénoms qui vous plaisent, qui ne vous plaisent pas. On vous attend au 32-16.
RMC, 14h-16h, La Haye, l'amour et vous. RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Stéphane Clergé est avec nous, pédopsychiatre, et je précise que le dernier livre de Stéphane Clergé vient de sortir aux éditions Limonade. Ce sont des livres pour jeunes, hein, pour ados, et qui sont toujours très simples, très bien faits, et avec des petits dessins marrants d'ailleurs. Et le dernier, c'est « Comment être gay et joyeux ou lesbienne et serein ». Voilà, vous avez compris évidemment le propos de ce livre. Bruno est avec nous maintenant. Bonjour Bruno.
Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci pour votre émission Brigitte, hein, toujours beaucoup de classe et de tenue. J'en parle autour de moi d'ailleurs.
Oh bah ça c'est gentil de me faire de la pub.
Bien. Alors le sujet d'aujourd'hui c'était le choix des prénoms.
Absolument. Et donc voilà. Vous avez fait une liste vous avec votre femme, c'est ça?
Alors oui, donc maintenant c'est mon ex-femme, mais à l'époque de toute façon, on s'est toujours entendu sur les enfants, c'est pas été le sujet de Discord. Donc pour les enfants, alors j'avais des idées assez précises, non pas sur les prénoms, mais sur le principe de choix des prénoms. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que le prénom ne permette pas la moquerie dans la cour de récré, par exemple. Ça c'est un point essentiel parce que je sais qu'il y a des enfants qui en souffrent beaucoup et ça il n'était pas question que j'offre ça à mes enfants. Donc on a eu d'abord un garçon, ensuite une fille. Et dans
excusez-moi, je vous coupe, oui, mais je pense que c'est intéressant. J'ai l'impression, Stéphane Clergé, que les mères vont plutôt choisir un prénom de manière émotive et les hommes vont essayer de trouver des bonnes raisons très factuelles pour choisir le
possible,
prénom.
C'est bien possible, oui. C'est bien possible.
Parce que Bruno explique bien ça. Il ne faut pas qu'on se moque
Il y a un côté plus rationnel et pragmatique.
Oui, il me semble.
Mais Bruno, on n'a pas dû se moquer beaucoup de vous quand vous étiez enfant.
Ah non, non. Oh non, non, Bruno, Nono, ça va, c'est pas...
Ah quand même.
Ils trouvent toujours les enfants, avec n'importe quel prénom, on trouve toujours le moyen de...
Ouais, surtout que j'ai des initiales sympathiques, hein, bébé, tranquille.
Ah oui.
Ouais.
C'est mignon.
Ouais, ça va, on assume, il n'y a pas de problème.
Non mais on sent qu'il y a une petite blessure quand même, et ça explique que pour vous c'était important de pas tomber dans ce piège-là.
On a quelques vedettes célèbres avec ces initiales-là, hein, entre Brigitte Bardot, Bruno Bettelheim, quoi faire. Donc non, ça m'a pas traumatisé.
Et votre épouse, elle avait été sujet de moquerie, elle?
Non, non plus, hein, Marie-Hélène, il n'y a pas de quoi faire.
On trouve toujours.
Oui, bien sûr. Oui. Enfin, après, là, c'est carrément c'est très élaboré comme stratégie. Mmh. Ouais. Donc, il y avait ça. Ensuite, on s'est quand même appuyé aussi. Alors, on n'a pas choisi dans le livre, mais une fois qu'on a fait notre petite liste, ensuite, on a regardé dans le livre un petit peu ce que signifiaient les prénoms. Il y avait un livre donc sur les prénoms. Et on a fait chacun notre liste de notre côté.
C'est pas mal, oui.
Voilà. Et puis après, on a discuté nos listes respectives. On avait des points communs. Voilà. On a passé un peu de temps. On n'a pas non plus passé des jours. Hein. Ça s'est fait assez rapidement. Donc sous une heure, c'était réglé cette histoire. Voilà. Il y avait aussi la question, parce que moi, par exemple, j'ai 5 prénoms. Hein, je m'appelle Bruno-Marie-Victor-Paul-Louis. Oui, tranquille.
En fait, pour enculer les filles dans l'avion, quand on change de pays.
C'est quand même le prénom usuel, hein, donc on est à peu près sauvé avec cette mention-là. Mais c'est vrai qu'on m'expliquait que, bon, mes parents ayant connu la Seconde Guerre mondiale, que pendant la Seconde Guerre mondiale, on est très marqué par le risque d'homonymie. Même avec un patronyme identique, prénom identique, avec des risques de sécurité. Donc, on n'hésitait pas à mettre plusieurs prénoms pour éviter ce genre de...
Oui, bien sûr.
C'est une époque. Après, on m'a expliqué aussi que, bon, dans notre famille, par exemple, la famille Bévière, c'était consacré à Marie. Donc, on est tous des Marie Bévière. Donc, ça s'est resté. Et puis, derrière, après, c'est vrai qu'il y avait des liens avec les grands-parents, derrière. Moi, j'ai un grand-parent maternel, un grand-parent paternel.
Et ça, c'est des coutumes qui se perdent un peu, il me semble, Stéphane Clerget.
Oui, ça diminue un peu, mais ça reste dans certaines familles assez présent. Et c'est pas impossible que ça revienne. Hein,
absolument, oui.
Oui, c'est comme les modes, ça va, ça vient. mais alors, dans mon cas, on a eu un problème sur le garçon, c'est que très tôt, on a eu des problèmes de relation avec le beau-père, avec mon beau-père, et donc forcément, j'étais pas très chaud pour lui donner son prénom à mon fils, même si le prénom lui-même ne posait pas de problème, hein, ça s'appelait Jean. Et du coup, bah, par équité, on n'a pas donné le prénom de mon père. Édouard. Et
sûr.
Ça, de ce côté-là, mon fils, comme mon père, m'en ont voulu un peu.
Ouais. Oui, mais on voit bien.
Il y a des blessures là, voilà.
Toute la charge, c'est vraiment l'arbre généalogique, quoi. Et on existe un petit peu à travers votre fils, grâce au prénom qui a été transmis ou pas.
On voit que chez Bruno, finalement, on a donné plein de prénoms pour des raisons de sécurité, et que le choix que Bruno fait pour son enfance, il y a aussi des raisons de sécurité derrière. On veut éviter les moqueries, le harcèlement.
Merci Bruno, en tout cas, de votre témoignage.
Je vous remercie beaucoup, Brigitte. Au plaisir d'une autre fois.
Et avec plaisir. Merci.
Au revoir.
Alors, voilà un prénom un peu original d'Alenda. Hein. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que je prononce bien d'Alenda, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est très bien.
Et c'est de quelle origine, alors?
Alors, c'est d'origine berbère. Ça vient du côté de ma mère qui est civile. Puis on n'est pas très sûr des origines et encore moins des significations, puisque je n'ai jamais trouvé de sens ou quelconque signification sur Internet. C'était un prénom qui n'a pas été facile à porter dans mon adolescence, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on m'écorchait souvent mon prénom, ce qui était dur à entendre. J'avais énormément de questions dès la première question d'usage, comment vous appelez-vous. On s'attardait beaucoup sur mon prénom, alors que c'est pas forcément dès l'écoute de son prénom qu'on a envie de se faire remarquer. On a envie de passer un peu inaperçu, et il se trouve qu'avec un prénom un peu hors du commun, il n'est pas évident de passer inaperçu.
C'est vrai qu'il est... Enfin, moi, je ne l'ai jamais entendu, ce prénom, personnellement.
Donc, je... oui.
Bon, moi, j'aime bien les prénoms qui se terminent en A, et puis pourquoi pas d'Alamda, c'est joli, mais j'imagine bien que j'imagine bien que c'est assez normal qu'on vous demande tout de suite c'est quelle origine, et si vous n'avez pas envie, si vous êtes un petit peu introverti, c'est vrai que ça doit être à la longue un peu lourd à porter.
En effet, bon, après, on apprend très vite à l'apprécier, et on grandit un petit peu.
Mais c'est une leçon aussi pour les parents, parce que aujourd'hui, les études montrent qu'en France, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, la tendance, elle est de créer des prénoms complètement atypiques, des créations, des néologismes, avec des écritures originales. L'idée, c'est vraiment le prénom le plus original possible.
C'est l'individualisme français, ça.
Oui, c'est peut-être ça. Mais du coup, ça va à des gens qui aiment bien, si j'ose dire, se faire remarquer. Mais des gens, effectivement, plus pudiques, plus réservés, qui n'ont pas envie qu'on questionne sur leur prénom, n'apprécient pas forcément.
Oui,
ce qui semble être votre cas, oui.
Oui.
Mais aujourd'hui, vous avez 22 ans, ça va? Vous êtes, vous l'aimez bien?
Oui, tout à fait. Oui, maintenant, je l'aime bien, justement, ce petit côté unique. Puis c'est aussi un très bon sujet de discussion.
Pratique pour les garçons. Ils savent de quoi vous parlez dès le départ.
Voilà.
Ça, c'est vrai, oui. C'est un bon atout. Merci en tout cas d'avoir témoigné d'Alenda. Merci beaucoup.
Mais écoutez, merci à vous.
Au revoir.
Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Au revoir. Marion, vous avez des jumeaux. Vous avez eu des jumeaux et donc c'était pas simple de choisir les deux prénoms. Bonjour Marion.
Bonjour Brigitte. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Je vous appelle pour témoigner. Alors moi c'était pas très simple parce que déjà j'avais plus d'idées pour les filles que pour les garçons. Donc là il fallait en trouver deux. Donc j'ai appelé un de mes enfants Elliot et l'autre Quentin. Et donc on a fait le choix avec le papa qu'à la naissance, c'est lui qui décide, parce que notre problème, c'était à qui attribuer quel prénom. Et donc le choix, c'était de laisser le papa, enfin j'ai dit au papa, ben voilà, c'est toi qui les verras, enfin moi je les verrai, mais je serai peut-être pas en état de tout de suite donner le prénom. Donc voilà, c'est toi qui donneras le prénom à chacun des enfants. Il était plutôt d'accord, ça lui plaisait bien. Et donc en fait, c'est des jumeaux qui sont arrivés un mois et demi avant terme. Et donc le papa, c'est Elliot qui a déclenché l'accouchement. Donc le papa, on trouvait qu'Elliot avait une sonorité plutôt espiègle et Quentin plutôt douce. Et avec ce qu'on avait discuté sur ses prénoms et pourquoi on les aimait bien, mon mari a donné le prénom d'Elliot à celui qui avait déclenché l'accouchement. Parce qu'il trouvait que c'était...
Celui qui est arrivé en premier, donc.
Oui, voilà, celui qui est arrivé en premier parce que, voilà, il avait fait... il avait déclenché l'accouchement, il avait envie de sortir. Donc, il s'est dit, bah, Elliot, ça lui ira bien. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je sais pas si c'est nous qui projetons des choses ou... Voilà, mais en tout cas, les sonorités qu'on trouvait plutôt douces et plutôt espiègles pour l'un et pour l'autre correspondent un peu à leur caractère quand même, je trouve.
C'est intéressant le témoignage de Marion, parce qu'elle reparle de la musique, hein, de ce dont vous parliez au début, Stéphane Clergé. Et puis on voit aussi là tout ce qui est mis symboliquement sur ces prénoms.
Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement c'est pas forcément le premier né le plus espiègle. Hein. Donc là on voit vraiment l'influence du prénom, ou en tout cas ce qu'on y met derrière. Moi, ce qui me plaît aussi dans le choix de ces deux prénoms, c'est qu'a priori ils sont très différenciés. Et on entend parfois, je suis un peu plus mal à l'aise, peut-être à tort, hein, mais des fois des prénoms sous prétexte que les enfants sont jumeaux, des prénoms qui font écho l'un à l'autre. Oui. Je pense à Léo et Noé. Enfin, et du coup, on se mélange un peu les pinceaux d'ailleurs. Oui. Mais ça crée un lien supplémentaire alors qu'il y a déjà la gémellité, ça suffit quoi.
Oui, alors nous, c'est vrai qu'on a voulu qu'ils soient bien différenciés, ça c'était un choix dès le départ. Mais par contre, on voulait quand même que à nos oreilles, à nous, ça sonne bien l'un avec l'autre. Parce que c'est vrai qu'on les appelle souvent l'un et l'autre. Enfin, bah, des fois, on les appelle l'un et puis après l'autre. Mais je veux dire, c'est des prénoms qu'on dit souvent l'un accordé avec l'autre. Et c'est vrai que quand même, on a fait attention à la sonorité, qu'ils fonctionnent bien ensemble. Pas qu'ils se ressemblent, mais qu'ils fonctionnent bien au niveau des...
Oui, vous vouliez deux prénoms qui se mariaient sur le plan de sonore.
C'est plus sympa que les jumeaux, aussi, de dire Elliot et Quentin plutôt que dire les jumeaux.
Cette façon de dire
tout le temps les jumeaux, c'est pas très sympa, je trouve.
Oui, ben ça, je crois qu'on en est revenu un petit peu.
Oui, mais ça montre bien que vous aviez conscience qu'il fallait les individualiser chacun et ne pas les laisser se confondre encore plus. Et ça,
oui,
c'est,
tout à fait.
Ça, c'est une bonne réflexion.
Vous parlez beaucoup de musicalité, de sonorité. Vous avez l'oreille musicale, vous faites un instrument ou...
Moi, je joue un petit peu de guitare, mais je peux pas me définir comme vraiment musicienne. Mais par contre, c'est vrai que je suis assez sensible à ça. Voilà, j'étais assez sensible à la musicalité. Et puis, c'est des prénoms qui ont aussi écho. Moi, j'avais un élève dans ma classe qui s'appelait Elliot et j'aimais bien. Enfin, c'était un élève.
Ah, c'est censuré. On n'en saura pas plus. Bon, ben c'est tant pis. Et puis comme c'est le moment de laisser la place aux infos, on restera sur ce secret de Elliot. Merci beaucoup Marion. On se retrouve après les infos. On continuera à évoquer les prénoms et ensuite on parlera de la voix. À tout de suite.
RMC 14h-16h. La L'amour et vous.